Donc on va commencer Bezrat Hashem, notre cinquième cours, sur le chapitre 13. Et le chapitre 13, on parle toujours du Benoni. Et en fait, le sujet un peu complexe dans lequel on est rentré la semaine dernière, c'était la notion de Emet, la notion de la vérité. Certainement vous en rappelez. Je sais qu'il y avait plusieurs après qui vont en parler pendant la semaine. Et même, on fait un petit dédicace à Serge parce que j'enregistre le cours pour lui. Et que oui. En fait, il a eu un empêchement, mais il m'a dit je voulais entendre la suite du cours. Pourquoi? Parce que la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on a commencé à parler d'un nouveau thème qui est autour du Benoni, qui est la notion de vérité. Pourquoi? Le Benoni, à certains moments, il peut se sentir être un mytho. Un mytho dans le sens, être un menteur. Il se dit, le matin je viens, je fais croire une chose. C'est-à-dire, je me fais passer pour le grand tzadi, comme si j'ai pris avec la grande kavana. Alors que je sais très bien que je vais faire des avérotes après. Je sais très bien que demain matin, j'aurai sur quoi faire des avérotes. Alors le Benoni est dérangé. Le Benoni se dit, est-ce que quelque part je suis pas un menteur? On a expliqué que dans la chassidoute, il n'y a rien de plus grave que le mensonge. C'est quoi le mensonge? Ça veut dire se faire croire quelque chose qu'on n'est pas. C'est très important dans la chassidout d'être honnête avec soi-même. D'ailleurs, on est dans le Chodesh Elul, on est dans le mois d'Elul. Le mois d'Elul, merci, c'est le mois du bilan. Qu'est-ce qu'un bon bilan? C'est quoi un bon bilan? C'est un bilan qui est honnête. Alors on va faire passer les livres, voilà. Tenez. Voilà. Donc, on est en train de dire que la semaine dernière, on est en train d'être dans un thème, on s'arrêtait en plein milieu, à savoir le thème du Emet. Qu'est-ce que la vérité? Notamment, c'est un thème très important dans ce mois-ci. Nous sommes actuellement dans le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est le mois du bilan. Qu'est-ce qu'un bon bilan? C'est un bilan qui est honnête. Ça veut dire quoi? De la même manière que dans les affaires, quand vous faites un bilan, si une personne va faire un bilan et qui va se dire « Bon, les affaires vont bien alors qu'en vérité les affaires vont mal », ben il va se convaincre que les affaires vont bien jusqu'à ce qu'il va se casser la figure. C'est quoi un bon bilan? Un bon bilan, c'est savoir se poser les bonnes questions au bon moment et ne pas avoir peur d'affronter la réalité. C'est ça un bon bilan. On est d'accord? Ah bah, je me sens pas avec moi aujourd'hui là. D'accord? Donc un bon bilan, c'est ne pas avoir peur d'affronter la réalité, d'affronter la vérité, le Emet. D'accord? Et ça le problème, c'est la question qu'on s'est posée ce matin, mais finalement, qu'est-ce que la vérité? Alors le Benoni, il peut être un petit peu dérangé. Pourquoi? Parce qu'il se dit, le matin, j'ai fait une tefila avec une grande kavana. Et rappelez-vous ce qu'on avait expliqué, que la tefila, c'est l'arme ultime du Benoni, puisque lorsqu'il fait cette tefila, le Benoni sent qu'il est, bon, il est dans un autre monde. Mais il sent qu'après, dès qu'il a terminé cette tefila, c'est un peu nous. Il revient dans la vie active, et là, c'est fini, il revient, il redevient avec les pulsions habituelles, etc. Donc le Benoni, il se pose la question, il dit, est-ce que quelque part, je suis pas un menteur? Est-ce que je suis pas un menteur? Est-ce que je me fais pas croire des choses qu'en vérité je ne suis pas? Est-ce que je suis pas en train de toucher des choses qui ne sont pas à mon niveau? Ça le dérange. Et ça nous dérange à nous en vérité. Je voudrais rajouter encore un autre point. Quand on parle du bilan qu'on doit faire dans le mois d'Elul, les gens ils pensent que le bilan qu'on doit faire, c'est uniquement un bilan des avérotes qu'on a fait et faire tes choix sur les avérotes qu'on a fait. C'est une erreur. Parce que quand on fait un bilan d'une année comptable, on fait pas un bilan seulement sur les gaffes qu'on a fait. On fait un bilan sur l'avancée générale qu'on a eue cette année, et on se pose la question où on en est par rapport à nos objectifs, et quels sont les objectifs réalistes auxquels on pourrait arriver l'année prochaine. Et l'année d'après, on se reposera la question par rapport aux objectifs qu'on a fixés réalistes, qu'on croyait réalistes, qu'on a fixés l'année dernière, où on en est. C'est-à-dire que le but d'un bilan, c'est pas seulement de se dire quelles sont les avérotes que j'ai fait. Il y a des gens, ils pensent que le but du mois d'Elul et de Rosh Hashanah Kippour, c'est de dire, bon, j'ai fait des avérotes, il faut les réparer. C'est important, ça. Mais, si vous voulez, le but, c'est pas seulement, j'étais là, d'accord? J'ai reculé, les gens ils disent, le but c'est de revenir où j'étais. Non, c'est pas un but ça. Dans la Torah, le but c'est d'avancer. De constamment avancer, parce que quand on n'avance pas, on recule. C'est un principe dans la Torah. Quand tu n'avances pas, tu recules. Parce que lui, Yetzara, il avance. On peut pas ne pas avancer. Vous savez, comme je leur ai dit Shabbat matin, je leur ai dit dans le cours, j'ai dit, ces chaises-là, on aurait pu les garder 15 ans encore. Elles auraient tenu le coup. Y a pas de raison. Mais dans la Torah, c'est comme ça. Tu passes pas à l'étape supérieure, t'es obligé de passer. T'es obligé à un moment de passer la vitesse. C'est comme dans la mécanique, t'es obligé de passer la vitesse. Je referme la parenthèse. Donc je reviens maintenant au Benoni. Le Benoni est un peu dérangé. Le Benoni se dit, finalement, est-ce que je suis pas un menteur? Donc, puisque je sens que je suis un menteur, alors dans ce cas-là, est-ce que c'est pas mieux de tout arrêter? Pas tout arrêter parce qu'il a envie de rien faire. Parce qu'il sent qu'il y a une incohérence entre ce qu'il fait le matin et ce qu'il fait l'après-midi. Il sent qu'il y a une certaine incohérence, ça le dérange. Et il est honnête. Parce que rappelez-vous que dans le Tania, l'Admor HaZaken exige une grande honnêteté. Alors, qu'est-ce qu'on a répondu la semaine dernière? On a dit qu'en vérité, l'Admor HaZaken, il a dit, on l'a lu très rapidement, on va le reprendre, il a dit, je témoigne que cette personne-là n'est pas un menteur. L'Admor HaZaken, moi je témoigne, dit l'Admor HaZaken, que cette personne-là n'est pas un menteur. Pourquoi c'est pas un menteur? Parce qu'en vérité, il faut définir ce qu'est la vérité. Et c'est là sur ça qu'on s'est arrêté la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on a fait un tour de table pour ceux qui étaient là. On a posé la question et on a eu plusieurs réponses. Qu'est-ce que la vérité? Ah, il y en avait qui avait répondu. La vérité, c'est Hachem. La vérité, c'est la Torah. Mmh. La vérité, c'est Dieu. D'accord? La vérité, chacun va donner plusieurs réponses. Mais, en fait, ce qu'on avait expliqué, c'est que normalement, le critère, le paramètre le plus important de la vérité devrait être le fait qu'une vérité est inchangeable. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est une vérité et pas une certitude? Quelle est la différence entre une certitude et une vérité? Grande différence. Bien que dans la tête des gens, c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir. Pas toutes les vérités sont les certitudes et pas toutes les certitudes sont des vérités. Ça veut dire comme ça. Aujourd'hui, on peut avoir une certaine certitude et ça me dérange pas que en 2500, on aura d'autres certitudes contraires aux certitudes qu'on a aujourd'hui. Ça me dérange pas. Parce qu'on emploie le mot certitude, ça veut dire c'est un postulat ou une certitude qu'on a à un moment donné par rapport aux éléments qu'on a à ce moment-là.
C'est une conviction.
C'est une conviction. D'accord. Exactement. Ils avaient la certitude qu'elle était plate. Ça ne me dérange pas, d'accord. Ça ne les dérange pas après qu'avec on a prouvé d'autres choses. Et ça ne me dérange pas que peut-être, bon, la Torah, on sait ce que la Torah dit, mais ça veut dire que dans l'absolu, ça ne me dérange pas que dans 50 ans, on me dise, écoute, on s'est trompé, en vérité, la Terre est carrée. On me le prouve. Ça ne me dérange pas. D'accord. Parce que ça, c'est une certitude. C'est pas une vérité. C'est quoi une vérité? Une vérité, c'est quand tu as quelque chose que tu estimes être un indicateur de vérité, donc ça on va devoir le définir, notamment Dieu, d'accord? Et que toi tu estimes, parce que toi tu as décidé que ça c'est mon repère de vérité, que ce que lui dit c'est la vérité. Quand on parle de vérité, une vérité doit être inchangeable. Ça veut dire que tu peux venir dans 3000 ans, 3000 ans plus tôt, 3000 ans plus tard, ça bouge pas. Sinon c'est pas une vérité. Ça nous pose un problème pour le Benoni. Parce qu'a priori, le Benoni, le matin, il a fait la tefila avec une grande kavana, et que pour lui, sa vérité, c'était la tefila qu'il fait. L'après-midi, il va aller dans les affaires, et il va avoir des pulsions. Il va dire, mais attends, si je ne suis pas le même que j'étais le matin à la synagogue, donc ma vérité, c'était pas vrai ce que j'ai fait ce matin. Parce qu'une vérité aurait dû être quelque chose qui est immuable. Or, c'est pas le cas ici. Puisque je vois bien que c'est vraiment pas le cas.
Est-ce que tous les matins, il est sincère, il est vrai?
Alors, c'est une bonne piste. Ok, on va en parler. Vous avez raison, c'est une bonne piste. Mais concrètement, on comprend un peu mieux ce qui dérange le Benoni. Ce qui dérange le Benoni, c'est quoi? C'est que le Benoni sent que c'est pas vrai ce qu'il fait. Pourquoi il sent que c'est pas vrai? Pas qu'il le fait pas avec une certitude. Il sait qu'il fait avec une certitude. Il sent que il y a un problème dans ce qu'il fait. Il sent qu'il y a une incohérence entre ce qu'il fait le matin et ce qu'il fait l'après-midi. Donc c'est pas vrai. Donc il y a un problème. D'accord? Voilà ce qui dérange le Benoni. Alors dans les mots. On va dire ici. Donc dans les mots. Ve'afalpiken. On va reprendre la VF Alpiken. En fait, c'est pas page 188, c'est un peu plus loin. Vous savez quoi? On va reprendre depuis en bas de la page 188. Veine, Midata Avazon. Allez, pourquoi pas. On va reprendre 3-4 lignes, c'est pas grave. On l'avait déjà lu, hein. C'est 5-6 lignes, on les avait déjà lues la semaine dernière, mais on va les relire. Veine, page 188 en bas. Midata Avazon Amura Bebenoni Mishata Tfila. Aliedeit Gabrut Anefesh Elohit Roulé. Cet amour que va avoir le Benoni pendant cette fila, un amour extraordinaire qu'il envers Kadosh Baruch Hu, inné. Il faut savoir que les Gabé Madrigat Tzadikim, par rapport au niveau des Tzadikim, Ovde Hashem Behemet la Amito, les Tzadikim qui servent Dieu d'une vérité absolue. Il dit, chez le Benoni, En Prinat Avazo Nikreet Beshem Avodat Emet Klal. Et c'est ce qui dérange le Benoni. Le Benoni se dit, le Benoni pense, que son travail, son service divin, n'est pas considéré un vrai service. Pourquoi? Parce qu'il dit, regarde le tzadik. Il y a une cohérence entre ce qu'il a fait à 7h du matin et entre ce qu'il a fait à 14h. Donc lui, il est émette. Moi, il n'y a pas de cohérence. Donc, puisqu'il n'y a pas de cohérence, il y a un problème, je ne suis pas émette.
Dans ce cas-là, il veut pas être Benoni, il cherche à être tzadik.
Non. Il a compris ce qu'on a expliqué dans le chapitre d'avant. Que tzadik, soit tu l'es, soit tu l'es pas. Ça, il l'a compris. Mais il est dérangé par quelque chose qu'il voit devant lui. C'est une incohérence, il y a un problème. Et ça, la vérité, on a tous ce sentiment-là, ça nous arrive tous dans la vie, d'avoir ce sentiment-là d'incohérence, de sentir quelque chose qui ne tombe pas rond. de sentir que ce que je fais là et ce que je fais après, il y a une incohérence, ça tourne pas rond. Le Bénoni est dérangé par ça. Alors là, il donne une nouvelle notion qu'on n'a pas développée la semaine dernière, qu'on a juste cité de nom, qui est Emet et Emet la Amito. Alors je traduis, Emet c'est la vérité, Emet la Amito c'est la vérité de la vérité. Ça veut dire la vérité dans son état véridique. Alors j'ai envie de dire...
Absolu en fait.
Alors justement, ça veut dire quoi?
C'est
quoi la différence? Ou c'est vrai ou c'est faux? C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être à moitié vrai? Est-ce que c'est possible? Et là, le Morazak explique. Il dit, d'abord, pourquoi le Benoni sent il sent une certaine incohérence, il sent que c'est pas Emet qui fait. Mais achar shicholefet voveret achar atfila, puisque le Benoni sait que cet amour qu'il a envers Dieu part après la tfila. Il le sait que l'extase qu'il a eu pendant la tfila, il sait très bien qu'après la tfila, c'est fini. Le Yetzara va l'attaquer comme d'habitude, comme avant. Donc c'est pour ça qu'on peut pas dire que c'est quelque chose de vrai, d'immuable. Ouktiv, on sait. Que quelle est la définition que la Torah donne pour la vérité? Le roi Salomon dans Michelet nous donne une définition. Il dit, Sfat Emet, une parole de vérité, Tikon Laad, restera établie à jamais. Qu'est-ce qu'on appelle un homme vrai? C'est une personne qui a une parole. Il t'a dit quelque chose, tu peux revenir dans 50 ans, la parole n'aura pas changé. Il a une parole. Par contre, Ve'ad Argia, ça ne dure qu'un instant, Lashon Shaker, un langage de mensonge. Ça veut dire, quand on voit ici que le roi Salomon dans Michelet, Shlomo HaMelech dans Michelet, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelle est la définition d'une chose vraie? Une chose vraie est une chose qui est la'ad. La'ad, ça veut dire quoi? Ça veut dire éternelle. Alors que une chose fausse, c'est une chose qui est temporaire. C'est-à-dire que maintenant, c'est la vérité de maintenant, mais que demain, on peut dire, en vérité, on s'est trompé. Ça s'appelle du shaker. Parce que le fait même qu'on sait que demain, ça peut être contredit, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas une vérité absolue. Donc, voilà pourquoi le Benoni est dérangé. Le Benoni se dit, attends, c'est vrai qu'au moment de la tfila, je sens que Akadosh Baruch Hu est avec moi, je sens l'extase, je sens etc. Mais puisque je sais qu'après, ça va partir, donc déjà maintenant, quand ça se passe, je peux savoir que ça va partir, donc je sais que c'est du faux. Sans attendre que ça se casse. Tu comprends? C'est comme on te livre un produit, et il s'est pas encore cassé, mais tu sais qu'il va se casser. J'ai pas besoin d'attendre qu'il se casse pour savoir qu'il va se casser. Je sais qu'il va se casser, parce que j'ai vu qu'il va se casser. Qu'est-ce qui émet? C'est quelque chose qui est éternel. Donc c'est ça le sentiment du Benoni. Le Benoni dit, il y a un problème. Il dit, est-ce que je suis pas faux? Est-ce que c'est pas faux dans ce que je fais? Je me fais croire à certaines choses.
D'accord. La garantie, elle est dans le temps.
Alors voilà, comment ça marche. Alors c'est là ce qu'il va expliquer ici. Il dit, Ve'afal piken quand même. D'accord, mais ça on l'a juge qu'ici on l'a lu. Ve'afal piken quand même. Les gabé madrigat à Benoni. Par rapport à ce qu'on peut attendre d'un Benoni. Voilà, c'est là en vérité ce que le chidouche que l'Admor HaZaken nous rajoute aujourd'hui. Il nous dit, en fait, il y a deux choses. Il faut voir la vérité absolue. La vérité absolue, c'est qu'on aurait tous aimé Ed et Tzadikim. Le Tzadik, il a un courant continu. Tac, le même courant. Tu te prends à 7h du matin, 8h du matin, 9h du matin, pac, 220 volts, pff, nickel, ça bouge pas, ça branche pas. Ah, ça, c'est un Tzadik, là. Maintenant, quand tu n'es pas Tzadik, d'accord? Quand tu n'es pas Tzadik, alors ça bouge. Ça bouge, d'accord? Le courant, il va fluctuer. Des fois un peu plus, des fois un peu moins, d'accord? On sait que le courant fluctue. Bon. Maintenant, ce qu'il va expliquer ici, l'Admor HaZaken, il te dit, il faut analyser la vérité d'une personne par rapport à ce qu'on peut attendre de lui. Ça veut dire quelque chose de très simple. Ça veut dire, quand par exemple, je prends un verre qui est en plastique, je n'attends pas de lui la même chose d'un verre qui est en fer. On n'a pas les mêmes attentes. Un verre qui est en plastique, j'espère qu'il tient combien de temps? On m'a dit, ce verre est solide. Dans ma tête, j'espère qu'il va tenir combien de temps? Combien de temps je pense qu'il va tenir? Le temps de boire? Boire un verre. Une fois qu'il a tenu ça, d'accord, s'il n'a pas tenu plus que ça, je dirais, ah, tu m'as menti, il n'a pas tenu. Je vais dire non. Par rapport à ce qu'on peut s'attendre de cet ustensile, il a tenu ce qu'on attendait de lui. Donc, de la même manière, tu prends un ustensile en verre, tu prends un ustensile en fer, d'accord, là, on attend beaucoup plus de lui. On attend de lui qu'il doit être lavable, qu'il doit être inoxydable, qu'on peut le garder dans le temps, qu'on peut le garder plusieurs années, c'est normal. C'est pas les mêmes attentes. Ça veut dire que la vérité d'une chose va être définie par rapport aux attentes qu'on a envers la chose. Ça, c'est ça le chidouche qui veut nous dire ici. Donc, il dit, c'est la même chose. Tu as un Benoni, tu as un tzaddik. Le tzaddik, par rapport aux attentes qu'on peut avoir de lui, effectivement, être vrai, ça veut dire être, d'accord, cohérent et avoir un courant continu. Ça, c'est le tzaddik. Mais celui qui n'est pas tzaddik, il ne peut pas arriver à ça. Donc, ça sert à rien de dire des choses qu'il ne fera pas. Ça passe à sa vérité. Donc, c'est quoi sa vérité? Sa vérité, c'est d'être capable de faire un process qu'il est capable de renouveler constamment. Je vais donner un exemple. Imaginez par exemple, d'accord, puisqu'on a parlé des affaires, qu'on a parlé le mois du siècle, le mois des loups, on devrait analyser notre comportement comme on analyse une affaire une fois par an. Enfin, on fait un bilan, un audit, d'accord, un inventaire une fois par an. C'est très simple. Évidemment qu'une personne, on lui dit, qu'est-ce que tu aurais aimé? Moi, j'aurais aimé gagner des millions. J'aurais aimé que ma boutique, j'ai une chaîne. D'accord? Ça, c'est, on lui dit qu'est-ce qu'il aurait aimé. Maintenant, quand il analyse objectivement par rapport à ce qu'il a, il comprend très bien que ça n'arrivera pas. D'accord? Il comprend très bien que ce qu'il espère n'arrivera pas. Parce que par rapport aux moyens du bord, il n'a pas. Donc, c'est quoi sa vérité? C'est quoi la vérité qu'il attend? La vérité qu'il attend, c'est qu'il se dit, bon, ce que je vais essayer de faire, par exemple, je pense que j'ai 15 clients, 20 clients qui vont rentrer par jour, eh ben, j'aimerais que ces 20 clients, je m'occupe d'eux comme il faut. Et qu'ils sortent avec un produit dans la main. Bon, ça, on peut dire que c'est une attente qui est cohérente. Ça, c'est ma vérité. Ma vérité, c'est que je m'attends à 20 clients qui vont rentrer avec, en sortant avec quelque chose. Est-ce que ça veut dire que ça va marcher, ça va pas marcher? Je sais pas. C'est une vérité qui est relative. Quand c'est une personne qui va commencer à dire, moi, je pense que j'aurai des milliers de clients, on dit ta vérité. C'est pas une vérité puisque c'est faux. Donc, vous allez comprendre tout de suite quand je vais revenir par rapport au Benoni. Par rapport au Benoni, c'est la même chose. Le Benoni est une personne honnête. Donc, une personne honnête, il te dit en vérité, toi, tu dis, au Benoni, tu dis, mais est-ce que c'est pas quelque part incohérent? Est-ce que c'est pas quelque part un mensonge de promettre quelque chose le matin et l'après-midi de faire le contraire? Il te répond, il te dit, mais pour comprendre est-ce que c'est vrai ou c'est faux, il faut analyser par rapport aux outils qu'a le Benoni, par rapport à sa capacité. Et par rapport à sa capacité, il est au top. Donc, c'est vrai ce qu'il dit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour analyser la vérité de quelqu'un, il faut analyser par rapport aux outils qu'il a.
Donc, c'est une vérité relative.
Exactement. C'est une vérité relative. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on peut attendre de moi, d'accord, j'ai réussi à développer un process que je peux renouveler tous les jours, comme ce qu'a dit M. Bergen. Est-ce que ça veut dire que c'est un process que toute la journée je suis comme ça? Non. Mais en tout cas, ce que j'ai réussi à faire, c'est que tous les jours, je peux faire une filage, je peux avoir la cavana. Donc, c'est pas faux. Je peux pas dire que c'est faux. Parce que je peux le renouveler tous les jours. Maintenant, j'aurais aimé que ce soit toute la journée comme ça, mais c'est pas comme ça, parce que je suis pas un tzaddik. Donc ça n'arrivera jamais comme ça. Ça sera pas le cas. À part Kippour peut-être et encore. Ça n'arrivera pas. En plus, ça n'arrivera pas. Il te dit, non seulement on dit au Benoni que tu n'es pas dans le mensonge, mais au contraire, le fait de croire des choses, d'avoir des objectifs qui ne sont pas adaptés à toi, c'est ça ce qui aurait été un mensonge. Ça veut dire, qu'est-ce qui dérangeait le Benoni? Il dit, mais je comprends pas. Regarde, le matin je suis comme ça, l'après-midi je commence à faire des avérotes. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème? On lui dit, mais au contraire, si tu commençais à dire, je suis un tzaddik et toute la journée, je vais faire que des mitzvot et je vais faire aucune bêtise, ça aurait été incohérent par rapport à ta capacité. Donc, il y a un problème. Il faut quelque chose qui soit plus adapté, qui soit plus personnalisé par rapport à ta personne. Ça veut dire quoi?
Mesuré par la capacité.
Exactement. C'est pour ça que le cheshbon nefesh, le bilan qu'on fait le mois des louls, d'accord? C'est volontaire. C'est la raison pour laquelle le bilan qu'on voit pour qu'on doit faire dans le mois des louls, dans les textes, ce bilan est très peu développé. D'accord? Vous me suivez?
Théoriquement, oui.
Je disais que c'est la raison pour laquelle le bilan qu'on fait le mois des louls, il y a très peu de livres qui te donnent des détails. Qu'est-ce que tu dois faire dans ce bilan? À quoi tu dois penser? Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que ça doit être personnalisé. On peut pas avoir un modèle qui est là pour tout le monde. Et je vais vous dire plus que ça. Vous savez que même le Hachamnou, Baganou et les Al-Khet qu'on fait à Yom Kippour, d'accord? Normalement, ça aurait dû être, d'accord? Ça aurait dû être une sorte de confession que chacun fait et qui dit les Averot qu'il a fait. Personnellement. Seulement, les Ramim avec le temps, la Gemara raconte que les Ramim se sont rendus compte. Bien sûr, il y a assez. Pourquoi? Ah merde,
c'est chaleur. Les gens, ils écoutaient.
Non, mais chacun les écoute.
Oui, il n'y a pas de problème. Chacun, il parle en français, en salon. C'est quoi le problème? Seulement quoi? Qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte, les Khamis? Les Khamis se sont rendus compte que les gens étaient gênés de faire de la confession parce que il y avait des gens à côté qui risquaient de les écouter. Vous savez que la confession doit être verbale. La confession dans la Torah, le vidouille. Alors je sais que c'est une notion qui était pompée un peu. Hein, de... C'est eux qui l'ont pompé de chez nous, évidemment. D'accord? Ils le font. D'accord? Mais c'est verbal. Parce que la confession doit être verbale. C'est un vidouille qui doit être bépé. Pas dans la pensée. Il doit être verbal. Seulement ce qui se passe. Exactement, c'est vrai. Seulement qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas te confesser envers Akadosh Baruch Hu, puisque tu dois le faire verbalement, tu vas être un peu gêné de le faire verbalement parce que tu vas dire je suis à la synagogue et toi t'es une personne qui va m'écouter. Et qui va dire, bah dis donc, celui-là, je savais pas que...
Là, tu parles de la confession.
Je parle de la confession qu'on fait.
Non, on veut le faire dans la confidence.
Voilà. Il faut le faire à la synagogue. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait les Rachamim? Les Rachamim, ils ont dit que qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un texte qui correspond à tout le monde. D'accord? Un texte dans lequel on parle de Monsieur Bernard, parce que là, je reprends la question là. On va faire un texte dans le Halchet, un texte qui va parler de toutes les avérotes possibles. Je ne dis pas que je suis concerné partout. Par exemple, dans là-bas, on va parler des gens qui font l'adultère, qui font des choses comme ça, des choses qu'on fait pas. Mais je dis pas que je suis concerné par ça. D'accord? Mais on regroupe toutes les avérotes possibles et chacun il va essayer d'avoir la kavana dans le texte qui lui correspond. Comme ça, il n'est pas gêné de faire le halchet. Mais ce qu'on comprend, c'est quoi? C'est qu'en vérité, le halchet aurait dû être normalement personnalisé pour chacun. Parce que ça, c'est le but. Il n'y a pas de bilan, de modèle de bilan pour tout le monde. Ça n'existe pas. Le bilan doit être personnalisé pour chaque personne.
Mais tu peux avoir des grandes lignes.
Oui. Les grandes lignes, on les a. Les grandes lignes, le Benoni, il sait, je dois faire un maximum de mitzvot. Voilà, ça c'est les grandes lignes. C'est le but. Maximum de mitzvot, minimum d'avirot. Maximum de bien, minimum de mal. Maintenant, après, concrètement, comment ça se passe? Tu comprends? Là, t'as une fourchette. T'as le tzaddik, t'as le...
Pourquoi une fois par an, en réalité, on fait tous les
jours? Tu as raison. On devrait le faire. On le fait un petit peu tous les jours. On crée le schéma du soir. On essaie de le faire une fois par semaine. On essaie de le faire, oui.
Mais quand on fait des
paranonymes,
quand on fait des
paranonymes, on fait des... On va dire comme dans une affaire, il y a un jour où il y a un grand bilan. C'est normal. Il y a un bilan hebdomadaire, un bilan journalier, un bilan mensuel, un bilan annuel, c'est pas la même chose. Voilà. Et plus la période est large, et plus le bilan va être approfondi. C'est mamache la même chose qu'on va expliquer ici. Donc je reprends. La Dmora Zaken ici parle à ce Benoni qui sent une incohérence, qui sent un manque de vérité, qui sent que c'est pas cohérent ce qu'il fait le matin, ce qu'il fait l'après-midi. Il lui répond. Il lui dit, par rapport à tes outils, par rapport à tes capacités, tu es bon. Ah, t'aurais voulu être au top, mais c'est pas tes capacités. Donc ça sert à rien de viser quelque chose qui ne te correspond pas. Ça sert à rien, c'est une perte de temps. Viser trop. Le rabbi, une fois, il a dit, dans une des lettres, le rabbi, il a écrit, qu'un des grands pièges qui arrive aux gens, c'est quoi? C'est que les gens, des fois, quand on passe des grands moments, comme par exemple Rosh Hashanah, Kippour, etc., sur le moment, ils prennent des grandes décisions. Mais des décisions qui sont trop fortes pour eux, et que concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire zéro. C'est pas qu'ils vont faire la moitié. Concrètement, quand tu essayes de prendre la grande décision et que tu vois que tu n'arrives pas, qu'est-ce que tu fais? Tu fais zéro. Le rabbi, dans cette lettre, il dit, la chorma, c'est quoi? C'est le savoir prendre des petites décisions.
Donc
du coup tu fais rien. Donc c'est plus intelligent de prendre des petites décisions, mais des décisions adaptées à moi. Ça a plus de chances de tenir dans le temps. C'est ça, le Rosh Bonnefesh. Et c'est ça ce qu'on dit au Benoni ici. On lui dit, ne prends pas des choses qui ne te sont pas adaptées en voulant être vrai, parce que ça sera faux, ça n'arrive, ça tiendra pas dans le temps. Prends des choses qui sont adaptées à toi, quitte même à ce que ça tienne 2 heures par jour, c'est déjà bien 2 heures par jour. Après tu rajouteras 2h30, 3h par jour, mais prends des choses qui sont adaptées à ta personne. Donc, on peut dire qu'on a une vérité relative. Pourquoi? Puisqu'on a un process qui est renouvelable quand on veut. Le Benoni sait qu'il peut faire la tefila tous les jours, il sait qu'il peut étudier tous les jours. Donc ce process de Emouna, il peut le renouveler tous les jours. Donc c'est pas du mensonge, donc c'est pas du mytho.
D'accord? On est dans la première version du Emet.
Voilà, là on est dans la première version du Emet. Après, on va passer à la deuxième version du Emet, qui est le Emet la Amito. Le Emet, ça veut dire la vérité de la vérité. Donc, Ish kefi madrigato et madrigata benonim va reni kore. Et l'Admor HaZaken y parle. Il dit, il se porte témoin. Va reni kore bea havatam shebit filatam. Et l'Admor HaZaken dit, moi l'Admor HaZaken, je déclare que l'amour que le Benoni déploie, développe dans cette fila, gam ken sfatematikon lad. Moi je déclare que cet amour-là est un amour qui est vrai, qui est éternel. Je déclare que c'est pas quelque chose d'éphémère, c'est pas quelque chose de faux. Pourquoi? A priori c'est faux, parce que la preuve c'est que ça va pas tenir dans la journée. Il dit non. Oh il ou bekoach nafshama eloit, puisque leur âme divine potentiellement peut la chazor ou leorer prinata vazeleolam, elle peut éveiller à nouveau cet amour-là à vie. Ça veut dire que c'est un process qu'on peut renouveler quand on veut. On a un process qui marche, qui a marché, ça fait 3000 ans, qui peut marcher dans 3000 ans. On a un process qui marche. On sait que quand tu fais une fila, ça décolle. Alors c'est vrai que ça tient pas toute la journée, ça tient 1 heure, 2 heures, mais ça tient. Alors il te dit l'Admor HaZaken, c'est pour ça que puisqu'on sait qu'on peut le renouveler, eh ben il dit l'Admor HaZaken, on peut appeler ça quelque chose de vrai puisque tu peux le renouveler quand tu veux. Beit gabruta bishat tfila midayom biyom. Quand l'âme divine va se renforcer pendant la tfila chaque jour, al yedi achana araoui al chol nefesh, par une préparation qui est apte à tout le monde, kefir ka umadrigata, chaque personne par rapport à son niveau. Ça veut dire comme ça. Une personne qui a un niveau que pour lui, c'est déjà très très difficile de comprendre la traduction de ce qu'il dit. C'est déjà un exploit. Cette personne-là, il a fait une fois une tfila, il s'est cassé les dents, ça lui a pris 2 heures, il a compris le sens de traduction de l'amida. Et pour lui, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire. D'accord? Qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne-là? On lui dit, kolakavod, bravo, c'est super ce que tu as fait. Il dit, oui, mais t'as vu, après je suis parti, après la journée, je sais pas ce que j'ai fait. On lui dit, par rapport à ta capacité, par rapport à ton niveau, c'est extraordinaire ce que t'as fait. Ah, tu vas dire, oui, mais concrètement, ça n'a pas tenu dans le temps. Donc c'est du faux. Tu dis, non. Puisque demain, tu peux le refaire. Donc ça s'appelle du vrai. Ça s'appelle une irtani. Et en vérité, vous savez d'où on apprend ça? Parce qu'il va en parler, il va en parler après. Là, il va parler d'autre chose, en fait. C'est pour ça qu'il n'a même pas cet exemple ici. C'est l'exemple du ner tamid. En fait, à Migdash, il y avait une bougie qu'on appelait le ner tamid. C'est quoi le ner tamid? C'est une bougie qui était perpétuelle. Alors, c'est écrit comme ça. Ner Tamid, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu nous demande les Ha'alot Ner Tamid, que les bougies du Mishkan, les bougies du Mishkan et donc du Bet Hamikdash devaient être allumées perpétuellement. Le problème, c'est quoi? Rashi soulève la question. Il dit, mais le problème, c'est que les bougies n'étaient pas allumées perpétuellement. Il y avait une bougie centrale qui restait allumée constamment, et encore, mais en tout cas, bon, c'est d'accord. Mais les autres bougies, on les allumait avant la tombée de la nuit, et elles restaient allumées jusqu'au matin. Après, elles s'éteignaient. Et le soir, on les rallumait. Et pourtant, qu'est-ce que dit le pasuk? Comment il appelle ces bougies-là? Les Ha'alot, dans la paracha Be'alotra, il dit les Ha'alot ner tamid. Il dit, on appelle ça un ner tamid, ça veut dire une bougie perpétuelle. Donc Rashi pose la question. Il dit, un problème. Comment ça marche? Comment c'est possible? Qu'est-ce que répond Rashi? Rashi répond comme ça. Rashi répond, il dit que c'est vrai que la bougie, d'accord? Cherchez quelque chose?
Un aspirateur?
Ah non, c'est pas. Mais c'est pas grave, ça pour nettoyer la. J'ai balayé si vous voulez, mais.
Avant de mettre les vitres.
Ah d'accord, ah non, j'ai pas. Non. Désolé. Regardez ce qu'il y a.
Ça marche.
Voilà.
Désolé de vous avoir.
Il n'y a pas de problème. Donc, dis-la de Morazaken, qu'en vérité, donc je reprends. Oui, on dit que Nertamid, bougie perpétuelle. Pourquoi ça s'appelle Nertamid? Pourtant on sait qu'il n'est pas allumé 24 sur 24. Parce que comme on sait qu'il y a un timing spécifique auquel on doit l'allumer, et que quand on veut l'allumer, on peut l'allumer, du fait que c'est un événement qui est récurrent, est appelé quelque chose de vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on a ici maintenant deux définitions de la vérité. Soit un événement qui ne change pas, soit un événement qui peut être reproduit à une cadence, à une récurrence particulière, spécifique. Ça s'appelle aussi quelque chose de vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça s'appelle quelque chose de vrai. Ah, pourtant il y a des pauses, mais comme je sais qu'il y a une récurrence, qu'il y a un certain rythme qui est gardé, ça s'appelle quelque chose de vrai. Ça s'appelle quelque chose de émette, parce qu'on sait qu'il va tenir dans le temps. Ben, c'est la même chose pour le Benoni.
C'est un cycle.
Voilà.
Ça
veut dire, c'est vrai qu'il y a une lumière qui est suivie d'une obscurité, mais puisqu'on sait que le lendemain, dans le cycle, il y aura encore la lumière, et que le surlendemain, il y aura aussi la lumière, et qu'après, encore, il y aura la lumière, donc on peut dire que cette lumière est véridique. Ah, pourtant, il y a l'obscurité au milieu. Oui, mais étant donné que la lumière est cyclique, donc on peut, le fait que c'est cyclique et ce cycle ne s'arrête jamais, en tout cas, ça dépend de moi, mais si je veux, il s'arrêtera jamais, tant que je ferai ma tefila, ça marchera, eh ben, on peut appeler ça quelque chose de émette. Certes, c'est pas le Emet comme le Emet d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas le Emet comme le Emet d'un Tzadik, parce que le Emet d'un Tzadik, c'est Emet l'Amito. Ça veut dire que c'est stable de chez stable, c'est pas seulement qu'il est reproduit, il est reproductif quand on veut, c'est que Mamash, c'est stable du matin au soir, 24 heures sur 24. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Mais on n'est pas les Tzadikim. Donc il faut avoir un objectif qui est au plus près possible de notre capacité. Ok? Maintenant, on va revenir, hein. On va revenir maintenant à la question qu'on a posée la semaine dernière.
Rien ne peut être stable sans la volonté d'Akadosh.
C'est vrai, tu as raison. Si, parce qu'un tzaddik, dans son système, il est stable. Après, Dieu peut décider d'arrêter. Mais en tout cas, le tzaddik, il peut avancer comme ça pendant des années. Tu comprends ce que je veux dire?
C'est pas lui qui décide.
Il est net.
Je vais te donner un exemple. Regarde, je vais te donner un exemple. Une fois, j'ai donné un exemple aux jeunes. Je leur ai dit, bon, il n'est pas là, Serge, mais il va écouter l'enregistrement. Je leur ai donné un exemple. Je leur ai dit, c'est comme dans les courses. D'accord, t'as deux types de courses. T'as une première type de course dans laquelle on te dit, il faut que la voiture elle aille le plus vite possible. C'est une ligne droite. Ah, d'accord? Tu confirmes? D'accord? Donc on va le mettre des fois dans un désert, on va lui mettre des moteurs à propulsion, je sais pas quoi, etc. Et il faut qu'il fasse une pointe. D'accord? Ça c'est le but. Il faut qu'il fasse une pointe le plus loin possible. Il y a d'autres styles de concours dans lesquels le but c'est pas de faire des pointes.
C'est l'endurance.
C'est de surmonter des challenges, donc l'endurance. C'est-à-dire savoir accélérer, savoir freiner, savoir accélérer, savoir freiner. Le fait que j'ai freiné, ça me dérange pas, parce que je sais que je peux accélérer encore. C'est un peu la même chose avec le Benoni. Le Tzadik, si vous voulez, il fait des lignes droites. Donc il fait du chiffre. Bah, il trace, et c'est constant, c'est la même vitesse, ça bouge pas. Ça, c'est un Tzadik. Nous, on n'est pas des Tzadikim. Alors c'est vrai, tu as posé une bonne question à Abraham, tu dis, mais la machine, elle marche tant que Dieu décide. Le jour où Dieu décidera d'arrêter, bah, ça marchera plus. Mais en tout cas, tant que Dieu n'a pas décidé d'arrêter, ça peut continuer comme ça pendant des années. Et ça marche. Ça s'arrête pas. Le Tzadik, il trace. Alors que nous, ça marche pas comme ça. Nous, on accélère, on freine, on accélère, on freine. Alors tu dis, mais attends, qu'est-ce que vaut l'accélération puisque j'ai freiné après? Et tu dis, c'est pas grave. Comme tu sais qu'après le freinage, tu peux re-accélérer encore, donc la première accélération était vraie. Ah, j'ai freiné, oui, mais tu peux re-accélérer. Et ça, c'est un cycle qui s'arrêtera jamais. Que tu freines, mais tu re-accélères. Tu freines, tu re-accélères. Donc, l'accélération est un pouvoir que tu as en toi. Donc, cette accélération est une accélération qui est vraie. On peut dire que c'est quelque chose que tu as, un effort que tu as fait, que tu as fourni, qui est une vérité. Certes, pas une vérité absolue, mais une vérité par rapport à ton niveau, par rapport aux capacités qu'on pouvait attendre de toi. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, on attend beaucoup plus. Kadosh Baruch Hu, de lui, on attend le Emet l'Amito. C'est quoi le Emet l'Amito? Emet l'Amito, ça veut dire la vérité absolue. Et la semaine dernière, il y en avait qui avait dit que c'est quoi la notion de vérité? C'est la Torah. Pourquoi? Quand vous avez maintenant des réformés, des libéraux qui viennent vous voir, qui vous disent, le monde a changé, il faut adapter. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu lis, c'est écrit dans le texte, tu dis, bon, mais ce texte a été écrit, ça fait 3000 ans. Qu'est-ce qui dérange si on adapte? Dieu l'a adapté aux hommes il y a 3000 ans, maintenant il faut l'adapter aux hommes de l'an 2014. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Très difficile à répondre à cette question.
Une vérité, ça ne bouge pas.
D'accord? Qu'est-ce que tu réponds? Tu réponds que la Torah, c'est un émet, la amito. C'est pas un émet tout court. Torah émet, natalanou. C'est un émet, la amito. C'est une vérité absolue. C'est quoi une vérité absolue? Une vérité absolue, c'est quelque chose qui ne change pas. Tu ne peux pas changer. C'est-à-dire, c'est pas qu'on va dire, bon, il y a la vérité de la Torah, ça fait 3000 ans, après on passe la galoute, donc on fait une autre Torah, après on revient Mashiach, on revient. Non, ça marche pas, ça, pour la Torah. Parce que pour la Torah, c'est émet, la amito. C'est le vrai de vrai, ça veut dire que ça doit être immuable, inchangeable. Voilà pourquoi la Torah ne peut pas changer. Et c'est pas à moi à m'adapter à la Torah, c'est pas à la Torah à s'adapter à moi, c'est à moi à m'adapter à la Torah. La Torah, elle ne change pas, c'est une vérité absolue qui ne changera jamais.
Pourquoi? C'est la stabilité.
Pourquoi? Très bien. Bonne question. Pourquoi? Parce que la Torah est écrite par un Kadosh Baruch Hu, et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu cherches un indice de vérité, tu es obligé de décider toi, sans avoir de preuves. Tu n'as pas de preuves mathématiques, parce que les mathématiques, c'est pas une vérité absolue. Parce que les techniques qu'on utilise dans les mathématiques aujourd'hui, demain, on peut prouver le contraire. Demain, on pourra prouver que 1 plus 1 est égal à 3. J'en sais rien ce qu'on peut prouver demain. C'est-à-dire, les postulats qu'on a aujourd'hui, on pourra changer demain. Donc, les mathématiques, les sciences ne sont des certitudes, peut-être. On peut arriver à des certitudes. Et encore, c'est très rare que c'est des certitudes. Je pense qu'un des grands problèmes qu'il y a dans les écoles, c'est que on enseigne des théories à des, on en avait parlé à la fin de cours de temps il y a fait quelques mois, on enseigne des théories à des élèves, on leur présente ça comme des certitudes. Ce qui est faux. D'accord? Parce que la science, par définition, c'est pas des certitudes, c'est des théories. Et une théorie, on n'a pas peur de la contrer. C'est une théorie, on avance des idées. D'accord? Très important, mais on avance des idées. Mais je rentre pas dedans. Même si c'est une certitude, c'est une certitude qu'on a maintenant. Cette certitude n'est pas une vérité. Ce n'est pas une vérité. Et c'est pour ça que, comme on a dit la semaine dernière, est-ce qu'on peut avoir une preuve que Dieu existe?
Non.
Est-ce que je peux avoir une preuve logique que Dieu existe? D'accord. D'accord. Alors, je répète la question de la semaine dernière. Est-ce que je peux avoir une preuve logique, d'accord, que Dieu existe? Ça veut dire que, est-ce qu'une personne qui vient me voir et qui me dit, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en la vérité de la Torah, qu'est-ce que je peux lui dire pour lui prouver? D'accord. Mais en quoi c'est une preuve mathématique?
C'est une preuve.
Oui,
c'est lui qui l'a créé.
Il y a qui dit c'est lui qui l'a créé?
On n'a pas de preuve, ils ont daté les pierres.
Ils sont peut-être deux ceux qui l'ont fait.
D'accord, j'ai compris. Donc, ça, j'entends ce que vous dites. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité.
Que tu peux respirer.
D'accord, ça veut dire quoi? En vérité, il faut partir de la base suivante. Que la logique elle-même est une création divine. Donc, puisque la logique elle-même est une création divine, la logique ne peut pas prouver, d'accord, le fait que Dieu existe, parce que la logique est limitée. Et la logique d'aujourd'hui n'est pas la même que la logique d'hier. On réfléchit pas aujourd'hui comme on réfléchissait hier, et demain on réfléchira pas comme on réfléchit aujourd'hui. C'est pas la même logique. Donc, je ne peux pas avoir de preuve absolue. Je peux trouver des indices. J'en ai des indices. Mais c'est pas une preuve absolue. Parce qu'une preuve absolue, c'est quelque chose qui a marché, ça fait 3000 ans, et qui marche dans 3000 ans. Je ne peux pas en avoir, parce que par définition, la logique est une création divine. Est une création de Bakadosh Baruch Hu, d'accord? Donc elle est forcément, c'est une création qui est faite pour les hommes et qui est limitée par les limitations des hommes. Alors, comment ça marche la Emouna? Comment je peux avoir la définition de quelque chose de vrai? Je dois décider, comme ce que vous avez dit, d'accord, Moshe? Je dois décider, dans ma tête, que dorénavant, dans ma tête, Dieu représente la vérité. Et c'est mon indicateur de vérité. Et une fois que j'ai décidé que ça, c'est mon indicateur de vérité, tout va tourner autour de ça.
C'est une croyance.
D'accord?
Non, c'est une référence.
C'est comme dans les planètes, tu sais. Tout tourne autour de tout. On est obligé d'avoir un point de référence. Ce point de référence, il est virtuel. On est d'accord? Ça veut dire que je n'ai aucune possibilité de prouver que Dieu, c'est vrai. Mais j'ai pas besoin de le prouver. Pourquoi? Parce que par définition, la Emouna n'est pas quelque chose qui s'explique. Attendez. Ça ne veut toujours pas dire que je ne dois pas chercher à comprendre Dieu. C'est une mitzvah de chercher à comprendre. C'est autre chose. Mais avant de chercher à comprendre, je dois partir d'une base. Que quoi qu'il arrive, ça c'est ma référence. Maintenant je vais essayer de la comprendre, je vais essayer de l'atteindre, je vais essayer de la comprendre, il n'y a pas de problème. Mais je dois partir d'une base, que ça c'est ma référence, ça c'est mon indicateur de vérité. Et que ça c'est comme ça la vérité. Maintenant après, que moi j'y suis arrivé, je ne suis pas arrivé, c'est pas grave. Au moins je sais où est la vérité. Savoir où est la vérité, c'est déjà quelque chose de très très fort. Savoir où se trouve l'émet, c'est quelque chose de très très difficile. Que très peu de gens ont dans le monde. C'est pour ça que beaucoup d'autres personnes vont changer de religion. Ils changent de religion, et la religion elle-même, elle change, ils s'adaptent. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Nous, on a une vérité absolue. On a un émet, la amito. La vérité de la vérité. D'accord? Donc ça, mais ça, c'est la particularité des tzadikim, particularité de Dieu, particularité de la Torah. C'est des choses qui sont une vérité absolue, qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui est immuable. D'accord? Donc, avec ça, on a répondu à la question de la semaine dernière, que par définition, il ne peut pas avoir de preuve logique que Dieu existe. Il peut avoir des indices. Dieu nous donne des indices. Il y a des indices, il y a des clins d'œil, etc. Mais il n'y a pas de preuve logique. Parce que la logique d'aujourd'hui n'est pas la même que la logique d'hier. Ça veut dire que, même si aujourd'hui, quelqu'un lui dit, mais regarde, carbone 14, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé. Je dis, mais ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Ça fait 50 ans, on dit autre chose. Et dans 50 ans, on dira peut-être autre chose, et ça ne me dérange pas. Parce que par définition, la science, ça ne nous dérange pas que ça change. Moi, on parle ici de vérité, de émet. Et donc, c'est pour ça que, il y avait des fois des gens, souvent des gens qui posaient la question au rabbi, qui disaient, quelle doit être l'approche de la Torah par rapport à la science? Ou de la science par rapport à la Torah? Et le rabbi disait qu'en vérité, c'est deux mondes complètement différents, qui ne peuvent pas être contradictoires. Parce que la Torah, c'est une vérité, elle t'exprime la vérité telle qu'elle est, sans forcément te l'expliquer. La science cherche à atteindre la vérité et à l'expliquer. Donc la science n'est pas dérangée du fait que demain on lui dira qu'elle s'est trompée, ça ne les dérange pas, c'est les théories.
La solution trouvée est valable qu'un
temps. Exactement. Donc ça les dérange. Donc c'est pas le même monde. Et au contraire, le rabbi, quand il parlait à des scientifiques qui venaient le voir, il leur disait vous devez continuer à chercher. Une fois, il y a un scientifique qui était venu voir le rabbi. Son rôle, c'était dans la NASA, il essayait de chercher des preuves qu'il y a des extraterrestres. C'était son rôle. C'était le professeur Green, à la Vachal, à l'Imstar, il y a 2 ans. Et quand il a fait Teshuvah, il a demandé au rabbi, il a dit, qu'est-ce que la Torah en pense? Et est-ce que vous pensez que je dois continuer ce boulot à chercher des extraterrestres? Le rabbi lui a répondu comme ça. Il lui a dit, la Torah n'en parle pas, des extraterrestres. Ça ne veut pas dire ça existe, ça ne veut pas dire ça n'existe pas. Il y a peut-être des indices par-ci par-là, mais c'est pas rien de, on va dire, rien de tangible. Donc ça veut dire, il dit, la Torah n'est pas dérangée par le fait qu'il y en a ou par le fait qu'il n'y en a pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas le but de la Torah d'en parler. La Torah, elle parle des hommes. Nous, les hommes, ça nous concerne pas ce qui va chez les extraterrestres. Mais le rabbi, il lui disait, vous devez continuer votre travail. Pour chercher la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et au contraire, c'est pas une contradiction.
D'accord? Hommes,
exactement? Peut-être? Ce qu'on saura par contre, ce qui est sûr d'après la Torah, c'est que la finalité de la création du monde, c'est nous qui la faisons. Pas les extraterrestres. Ils ont un autre but, mais qui n'est pas la finalité de la création du monde. Ça, c'est écrit clairement dans les Midrashim, dans le Zohar. Ça, on le sait. Maintenant, c'est possible qu'il y ait d'autres créatures, ça ne nous dérange pas. La Torah n'est pas dérangée par ça. Mais est-ce qu'elle le cherche? Non. On n'est pas dans la même ligue. La Torah, elle t'exprime quelle est la vérité, elle te donne un indice de vérité. La science cherche. C'est pas grave. Maintenant, temporairement, la science peut contredire la Torah, ça ne me dérange pas. Au contraire, le rôle des scientifiques, c'est d'essayer de chercher à adapter, d'essayer de chercher à comprendre comment tout va bien, mais ça ne me dérange pas si pendant quelques années, ça ne correspond pas. C'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème. D'accord? Ça veut dire comme ça. On va donner un exemple, d'accord? Si je vous pose la question, d'après vous, qu'est-ce qui tourne autour de quoi? Le soleil autour de la Terre ou la Terre tourne autour du soleil? Qu'est-ce que vous allez me répondre?
La Terre autour du soleil.
D'accord? Évidemment, vous allez me répondre, tel que vous apprenez dans les écoles, que la Terre tourne autour du soleil. D'accord? Seulement, je sais pas si vous savez, qu'il y avait, je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est pas mon domaine,
relatif,
d'accord? Qu'en vérité, exactement, Einstein a démontré que tout est relatif. Qu'en vérité, tout est relatif, et ça veut dire qu'en vérité, si on ne prend pas on a pris un point de repère, et par rapport à ça, on a décidé que la Terre tourne autour du Soleil, mais en vérité, tout est relatif, et on aurait pu décider aussi que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et ça, d'accord, ça nous a permis de montrer qu'en vérité, quand Maïmonide a dit que le Soleil tourne autour de la Terre, Maïmonide ne s'est pas planté. Il y a des gens qui voulaient dire, non, mais tu comprends, vous l'adaptez à la Torah, il dit, peut-être tu comprends, Maïmonide, il voulait dire, c'est tel que les hommes le perçoivent, que le soleil tourne autour de la Terre. C'est pas ça ce qu'a dit Maïmonide. Maïmonide, il dit clairement, le soleil tourne autour de la Terre. Et il parle, il dit, le soleil, la lune, il explique tout comment ça se passe. Tu peux pas dire que c'est juste comment c'est perçu par les hommes. Alors, est-ce qu'il s'est planté? Et là, tu veux dire, oui, bon, il exprimait comme la connaissance de l'époque. Alors, Rabbi, il n'y a pas besoin d'arriver à là. Parce que, dans la Torah, on t'exprime la vérité absolue. Qui n'est pas forcément compréhensible dans l'état maintenant, c'est pas grave, ça nous dérange pas. On parle d'une vérité qui change pas. Maintenant, tu l'as compris, tu l'as pas compris, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. C'est ce qui m'explique ici. Donc, si on peut dire, la Torah, c'est l'expression d'une vérité, la science, c'est la recherche de la vérité. Par définition, la science, c'est de la recherche, c'est des théories. C'est-à-dire, quand par exemple, on apprend aux enfants à l'école, parce que je vois des fois des jeunes qui posent la question, ils me disent, mais on a appris à l'école que le monde a été créé par le Big Bang. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu une certitude, tu vois. C'est sûr que, il y a le tampon de l'école qui dit, attention, le monde a été créé par le Big Bang. C'est fini, c'est signé. La science n'a jamais dit ça?
Et pourquoi pas?
C'est une théorie.
C'est une théorie.
C'est une théorie.
Bah oui, peut-être.
Une théorie n'est pas, mais une théorie, mais il faut comprendre la définition d'une théorie.
Oui, c'est une théorie.
Ça veut dire que tu parles à un scientifique, ça le dérange pas que tu lui dis le contraire. D'accord?
Quand il ne trouve pas mieux, il...
Ça veut dire, je continue sur la logique, ça veut dire, si moi maintenant on vient me voir, on me dit, tu sais, la Torah, quand ta prière, elle était fausse, Ras Shalom, c'était du pipeau, j'aurais un problème. Parce que ça veut dire que la vérité a changé et la vérité ne change pas. Par contre, si tu vas voir un scientifique et tu lui dis, bon, écoute, tu avais une théorie qui tenait, maintenant on a découvert qu'elle ne tient pas ta théorie. Ça ne le dérange pas. Il n'est pas dérangé par ça. Il accepte. Il dit, bon, bah, maintenant, change de théorie, pas de problème. Mais alors, les gens vont dire, ah, mais ça veut dire que le scientifique, c'est des menteurs. Non, c'est pas un menteur. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle de recherche. Il explore des pistes. Eh ben, on explore une nouvelle piste. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème?
Alors, question.
Oui.
Quelqu'un qui va se convertir à la religion juive, il va prendre conscience de cette vérité-là. Alors, il l'avait pas, maintenant il l'a.
Oui. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est la fameuse aide divine qu'on a parlé au début du chapitre 13. Il sent l'indicateur, il sent qu'il y a quelque chose qui est plus fort que lui. Et il essaie de se comporter par rapport à ça. Il sent qu'il y a quelque chose qui est plus fort que lui. Qu'il appelle une vérité.
Ouais, mais quand
il peut pas le démontrer.
Il était devenu juif. Oui. Le juif est devenu catholique.
Mais pourquoi on parle d'un converti? Bon, il n'est pas besoin de parler d'un converti, on peut même parler d'un Baal Teshuva. Fais Teshuva, pourquoi il a fait Teshuva?
Non, je parle d'un converti.
C'est la même chose. C'est le même procès, c'est le même théorie.
Non, parce que moi, je prenais l'exemple de
cardinal.
Oui.
Parce que lui, pourquoi obligé?
Il a été obligé pendant la guerre.
Mais après, attendez, je comprends. Je comprends ce que vous voulez dire. Attendez, je vais répondre à la question. Après, il n'y a pas de preuve de la Torah. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de l'accepter.
Oui, mais
ils reconnaissent l'acrobate comme l'acrobate. Je vais répondre à la... C'est une question importante que vous posez. Je vais répondre à la question. On doit partir, d'accord, en bataille. On doit partir. On est obligé, pour avoir la émouna en Dieu, on doit partir d'un postulat. On doit partir d'une base que j'accepte que Dieu est vrai. Regardez, la Gemara, dans laquelle on n'a pas peur, il n'y a pas de tabou dans la Gemara. Il n'y a pas de tabou dans la Gemara. D'accord? On pose toutes sortes de questions, on n'a pas peur. Des questions que même nous, on aurait honte de poser, la Gemara, il n'y a pas de tabou. Est-ce que dans la Gemara, on a déjà posé la question, est-ce qu'il y a une preuve de l'existence de Dieu? Il n'y a pas. Est-ce que Dieu existe? Il n'y a pas. Parce que ça, c'est pas quelque chose qui peut se démontrer logiquement. Et c'est pas son rôle à démontrer logiquement. On est obligé de partir d'une base de Emouna. Donc, c'est un postulat. Un postulat que je peux accepter ou ne pas accepter. Quand vous avez des gens qui sont pas religieux, ce postulat, ils ne l'ont pas. Ils le sentent peut-être de temps en temps qu'ils pourront, je sais pas. Mais ils ne l'ont pas, ce postulat. Et à un moment, avec le temps, on se travaille pour l'avoir. Donc ça veut dire quoi?
Non,
j'ai pas dit ça. Pas dit ça.
On parle des gens qui croient pas en Dieu.
Bah écoute, théoriquement, si tu crois, alors justement, donc il va avoir un postulat sur le fait que Dieu est vrai, voilà. Mais il n'a pas un postulat que la Torah est la vérité.
Si.
Alors, en tout cas.
Il a été déformé par la
Attendez. Mais ça, c'est justement, vrai. Donc il n'a pas le bon postulat.
Non, parce que la Torah, ce qui est marqué dedans, je veux bien faire, mais après, elle est plus que les rabbins.
Donc il n'a pas le bon postulat, parce que le bon postulat,
nous,
c'est que.
Aussi,
y a
une...
Voilà. Nous, on croit qu'il y a un Dieu qui a donné une Torah et qui a demandé et que ce Dieu, même Dieu, a demandé aux rabbins de nous adapter la Torah. Maintenant, voilà, là, je viens de faire trois postulats, là. T'as un Dieu, t'as la Torah et t'as les rabbins.
Maintenant,
une personne peut refuser un des trois.
Maintenant, la Torah, tu détermines pas qui s'appelle rabbin.
Moi, oui.
Mon rabbin,
d'accord, tu as raison. Voilà. Donc, encore une fois, on est obligé de partir de la base de postulats. De choses qui ne sont pas démontrables.
J'ai une petite question concernant le fait que la Torah ne change jamais.
Oui.
Comment tu comprends le
Oui, c'est pas la même chose.
De changer
non, d'enfreindre.
D'enfreindre.
Non.
Une infra...
C'est écrit comme ça. C'est écrit que lorsqu'on doit faire pour Dieu, des fois il faut enfreindre la Torah.
Mais c'est surpassé. D'abord il faut être capable.
Voilà, sa volonté.
Tant que c'est une infraction que je fais. D'accord. Et que en moi je sais que c'est une infraction et que la vérité est toujours là, j'ai pas touché à la vérité. Si tu veux, la vérité c'est un repère que j'ai. C'est un repère, j'ai un repère. Même si j'ai enfreint ce repère, je sais que le repère est là. Le repère n'a jamais bougé. Et on est obligé, c'est pour ça que c'est une question c'est très importante ce qui est posé ici. Ça veut dire qu'il te dit que pour avoir la Emouna, tu es obligé de partir d'une ligne que tu vas accepter comme étant la vérité. Sans avoir de preuves. Après, une fois que tu auras cette ligne-là, tu pourras trouver des choses qui confortent le fait que tu es dans cette ligne. Tu veux dire, regarde, on voit des signes dans le monde, etc. Mais tout ça, c'est des choses qui vont te conforter dans ta croyance. C'est pas des preuves logiques.
Je crois que je cherche pas une preuve. Mais je trouve que c'est simple de dire, voilà, je crois en la Torah, mais je peux dévier si j'ai toujours ma ligne directive de la Torah. C'est facile.
Mais je crois que ça ne s'adresse pas à tout.
Encore une fois, tout ça, c'est des postulats qu'il faut accepter. Il faut accepter Dieu, il faut accepter la Torah, il faut accepter Moïse, il faut accepter les rabbins, il faut accepter tout ça. Et quand tu enlèves un, donc du coup, tu as bougé la ligne. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça veut dire qu'on parle de la base, qu'il y a des choses qu'il faut accepter, c'est comme ça. C'est là, par exemple, tu étudies la Gemara, on pose une question. On te dit, Rabbi un tel dit comme ça, Rabbi un tel dit comme ça. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, bon, voilà, tu as le choix, c'est-à-dire que maximum, quand tu auras deux avis, ben, même si tu as les Sfaradim Ashkenazim, maximum, les Sfaradim suivront l'avis de Rabbi numéro 1. Les Ashkenazim suivront l'avis de Rabbi numéro 2. Si maintenant t'as un Shulchan Aruch, un nouveau Shulchan Aruch qui dit, moi je suis Rabbi numéro 3. Il dit non, tu peux pas. Pourquoi je peux pas? Ah, parce que c'est comme ça. Parce qu'il faut suivre ce qui est écrit ici. T'as pas le droit de le rajouter. Pourquoi j'ai pas le droit de le rajouter? C'est pyramidal. Pourquoi j'ai pas le droit de le rajouter? Parce qu'encore une fois, on part de la base qu'il y a un postulat. Le postulat, c'est que tu dois partir sur une base, sur une ligne qu'on t'a donnée. Et t'as pas le droit de dévier. J'ai pas de preuve pour ça. Je peux pas avoir de preuve.
C'est qu'on estime maintenant qu'on n'a pas la même capacité que nos anciens. Si on était aussi rachamim et aussi nombreux que nos anciens, on pourrait changer.
Tu as raison, oui, pas de problème. Mais donc je dois accepter.
Les tosafistes,
oui. Pas ça, jamais. On ne peut jamais remettre en cause quelque chose.
Je ne parle pas de remettre en cause.
Poser des questions. Objecter.
C'est de venir.
De rechercher. Développer. On n'a pas peur de rechercher. Mais on sait où est la vérité. On sait que Dieu est vrai. C'est pour ça que la Gemara n'a jamais posé la question, est-ce que Dieu existe? Parce qu'on sait que ça, c'est un postulat qu'on doit avoir. Sinon, tu ne peux pas commencer. C'est comme celui qui commence à faire des mathématiques et qui dit pourquoi 1 plus 1 est égal à 2, pourquoi pas être égal à 3. Tu dis, écoute, si c'est comme ça, on ne peut pas travailler. C'est pas possible.
Mais d'accord. Comment essayer d'expliquer à un inspecteur du fils?
C'est pas possible. Il faut qu'on parte sur des bases et après on avance.
Oui, même. C'est compliqué de partir sur un postulat qui n'est pas prouvé.
Tu as raison. C'est pour ça. Vous entendez la question d'Avner? Il dit c'est difficile de partir sur un postulat qui n'est pas prouvé. C'est pour ça que j'ai précisé la semaine dernière, même si ça a choqué certains, mais en vérité, quand on réfléchit, on voit même c'est la vérité, d'accord? Que ce postulat n'a pas besoin d'être prouvé pour être vrai. Je dis pas qu'il n'y a pas de preuve. Peut-être qu'un jour on aura une preuve absolue. Et on a déjà des preuves. On a déjà des éléments de preuve. Mais j'ai pas besoin de ça. Parce que si tu dis que le postulat dépend de la preuve, ça veut dire que le jour où je casse la preuve, il n'y a plus de postulat. C'est ça. Donc c'est pas bon.
Il y a des preuves.
Très fondement.
Il y a des preuves qu'on peut des fois pas remettre en question. Je sais pas, par exemple, une voiture, quand les physiciens ils ont développé des
oui.
voitures.
Oui.
C'est que forcément on a trouvé la vérité pour faire avancer une voiture.
Donc ça,
on pourra jamais remettre en cause que les calculs qu'on a fait, on va permis de faire avancer la voiture.
Peut-être que quelqu'un va
te. En science, on peut trouver une vérité.
Enfin, mais il y a une base avec laquelle tu démarres.
Je sais pas, mais en tout cas, on s'est rendu compte qu'elle est vraie, cette base. Et maintenant, c'est sûr que, puisqu'on peut faire.
C'est un postulat, voiture, c'est pas une vérité, c'est un postulat. Et c'est une certitude. Tu peux appeler ça une certitude. Mais ça ne me dérange pas.
Voilà,
c'est ça.
On peut pas dire que c'est une certitude. Puis on l'a vu, c'est ça y est, elle a avancé la voiture.
Mais c'est quoi la définition de vérité? Il y a plusieurs vérités.
C'est plus une certitude, c'est devenu concret.
C'est pas. Là, ce que tu me dis, par exemple, qu'on a développé dans la science, on a développé la notion de la physique, et on a inventé une voiture. C'est une certitude qu'on voit la voiture avancer devant nous. Ça s'appelle une certitude. C'est pas une vérité. Le mot vrai n'a rien à voir ici. Le mot vrai, c'est que je suis capable de déterminer ça c'est vrai et le reste n'est pas vrai. Qui te dit que ça c'est vrai et que ça c'est pas vrai?
Je sais pas,
aujourd'hui tu penses comme ça.
C'est une vérité qu'avec l'essence, le moteur tourne. C'est pas une certitude.
C'est relatif.
Mais tu prends l'exemple dans Bereshit.
Oui.
Quand il dit il a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas.
Oui.
Et quand tu vois qu'il est limite avec un banc de sable pour ne pas que l'eau déborde. Déjà, tu as une évidence. Déjà, tu vois une création. Hein.
Oui,
si demain l'eau devait déborder, la mer devait rentrer dans les terres.
Oui, mais est-ce que j'ai une preuve? Est-ce que j'ai une preuve que ce qui est écrit dans
simplement le... déjà par rapport à ces créations. Maintenant, si tu vois demain il y a un tsunami, tu comprends déjà. Tu dis voilà.
D'accord.
Il y a les éléments qui se sont déchaînés.
Je vais retourner la question. Est-ce que d'après vous aurez pu écrire la Torah tout seul? Est-ce que d'après vous, un génie aurait pu écrire la Torah?
Oui. Il va devant la mer et il dit j'ai bloqué la mer.
N'importe qui peut écrire. Bah oui.
Écoutez la question.
On a bien écrit un Coran, on a bien écrit.
Écrire ou réaliser.
Là maintenant, est-ce que c'est possible que quelqu'un aurait écrit la Torah? Il écrit. Il raconte des histoires.
Il
dit. J'ai créé le monde. D'accord.
Il peut s'inspirer. Après,
donc c'est pas une preuve, mais ça me dérange pas que c'est pas une preuve.
Il n'y a aucune preuve.
Si vous voulez, il y a des éléments de preuve, mais c'est pas des preuves absolues. La Gemara a dit que c'est quoi une preuve? Une preuve, c'est quelque chose qui est infaillible.
Après, il y a les éléments.
Je vous donne un exemple. Quand on étudie une Mishnah, par exemple, Rabotai, je vous réponds à une question importante. Quand tu étudies une Mishnah, par exemple, on explique la Mishnah d'une certaine manière. Tu étudies la Gemara par derrière, La Gemara te dit, et peut-être on peut expliquer la Mishnah d'une autre manière.
Oui, c'est ça.
Et pourquoi peut-être? Et c'est simple comme ça, pourquoi tu veux compliquer? Et peut-être. Du fait même qu'on peut l'expliquer différemment, donc j'ai pas de preuve qu'on doit l'expliquer comme ça. Une preuve dans la Torah, c'est quelque chose qui doit être infaillible. Sinon, c'est pas une preuve. C'est un élément de preuve. C'est un début de preuve. Des preuves comme ça, on n'en a pas.
C'est croire à cette preuve.
Oui. Mais c'est, ça me dérange pas, parce qu'au contraire, la émouna qu'on a en Kadosh Baruch Hu, dans les mots de la Torah, il y a la émouna et il y a la yédia. C'est deux mitzvot différentes. D'accord, je traduis. Emouna, c'est la croyance en Dieu. Yedia, c'est la connaissance de Dieu. Deux mitzvot distincts qui n'ont rien à voir. Yedia, c'est chercher à comprendre, à connaître Dieu. Ça, c'est une première mitzvah. À chercher des preuves, à chercher des choses, il faut chercher. Mais il y a une autre mitzvah qui doit venir avant ça encore. C'est la emouna, la croyance, que je crois que Dieu est vrai. C'est pour ça que Maïmonide, il précise. Maïmonide, il précise. Il dit, avant même de commencer à chercher à comprendre Dieu, tu dois partir de la base que peu importe le résultat auquel tu arriveras, sache que tu dois garder la émouna que Dieu est vrai. C'est très dur, ça. C'est-à-dire, on te dit, cherche, mais sache que de toute façon, la vérité, c'est ça. Ah, pourquoi je cherche? Pour que tu essaies de comprendre.
Mais s'il n'y a pas de preuve, ça, pour moi, c'est encore moins infaillible, justement. Un postulat sans preuve, bon, il est encore moins infaillible qu'un postulat avec preuve.
Tu as raison.
Peut dans le futur être réfuté.
Exactement. Tu as raison.
Donc, c'est en bas, enfin.
Il y a peut-être des preuves, mais c'est des preuves qui sont, c'est pas, j'ai pas besoin de preuves.
Bah, tu prends l'exemple de ton père et ta mère.
Voilà.
Est-ce que c'est ton père et ta mère?
T'as une preuve?
T'as pas un doute, mais en tout temps, c'est là, t'as fait grandir, t'as pas de preuve.
T'as une preuve?
T'as une preuve?
Ils sont là. C'est quoi la preuve?
Il est là.
Et alors, l'ADN? Et si maintenant, demain, on va démontrer que l'ADN, c'est faux? Qu'on peut fausser un ADN? T'as une preuve?
Comme le carbone. Comme le carbone 14, c'était une donnée.
À ce moment-là, tu t'es fou.
Voilà, le carbone 14, voilà. C'est des données qui étaient valables.
Là, c'est l'ADN qui...
Il y a quelques années, on ne savait pas, on l'a découvert. Dans quelques années, on va peut-être découvrir le contact de l'ADN.
Et même mieux encore, avec l'ADN, on va reculer 20, 50 ans
à l'époque. Ils ont quand même soigné des maladies génétiques entre-temps.
On n'allait pas plus loin.
Ah, excuse-moi.
Le mot atome.
Oui.
Atome. Atome. Qui ne peut se couper.
Exactement, voilà. On sait aujourd'hui que...
Un atome est déjà lui-même
coupé. Oui, de très très loin, bien sûr.
Voilà. C'était un postulat jusqu'à une certaine époque.
Et de temps en temps, tous les quelques mois, tu lis dans les revues scientifiques que le dernier, voilà, on a réussi à le couper encore et ça avance. Mais c'est pas grave.
Vas-y, j'aurais fait un peu d'orphisme si c'est possible.
Oui.
Pour parler des extraterrestres.
Oui.
Tu n'es pas assuré. Parce que dans le Chumash Bereshit, on ne parle pas que de la création. C'est de la terre, on parle de la création de l'univers.
De l'univers, oui.
L'univers tout entier. Dans la création de l'univers, on nous ramène tout ce que Dieu a créé.
Qui concerne nos hommes.
Pourquoi qui concerne nos hommes?
Parce que tout ce qu'on parle dans la Torah, c'est ce qui concerne nos hommes. Ce que les hommes ont un intérêt à connaître. Ça veut dire qu'on parle, même les anges qu'on va te parler, les anges, parce que les anges vont amener le tefillot auprès d'Akadosh Baruch Hu, ils travaillent pour nous, tout ce qui concerne l'homme. Si on ne sait pas l'homme, on n'en a pas forcément parlé.
D'accord.
Tu comprends? Donc il n'y a aucune preuve, ni d'un côté, ni d'un autre. Il y a des petites allusions par-ci, par-là, mais ce n'est pas des choses, c'est pas des preuves. Donc c'est...
Extraterrestre.
Ok, Rabotin, on y va dans les mots. Qui est midat emet l'imidato chez Yaakov. C'est écrit que la midat de emet, c'est quoi vous avez dans les mots? En haut de la page 191. Qui est midat emet, car la midat de la vérité, imidato chez Yaakov, c'est la midat de Yaakov. La midat de Yaakov, avinu, c'est quoi? C'est la vérité. Anikra, qui est écrit, briar atichon, qui est appelé, je vais expliquer tout de suite. La barre, d'accord, médiane. Mavriar minakatse elakatse. Alors vous savez, dans le Mishkan, quand on a construit le Mishkan, je ne vais pas le montrer avec un livre, bon, d'accord. Quand on a construit le Mishkan était construit en trois murs. Un mur, un mur, un mur. C'était des poutres, d'accord. Donc comment on accroche les poutres l'un avec l'autre, d'accord. Il y avait des sortes de barres qu'on mettait, d'accord, qui accrochaient les barres l'une avec l'autre. À part ça, il y avait des socles.
D'accord.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passait? Écoutez, parce que c'est important l'enseignement qui va tirer de ça. Très simple. Il te dit comme ça. Il te dit, regarde. Il te dit, tu vois ici ce que tu avais. Tu avais les barres qu'on mettait en haut, les barres qu'on mettait en bas, extérieurement. Celles-là, elles étaient...
Et elles devaient tourner.
Alors, justement, attendez. Celles-là, elles faisaient le mur. Une barre en haut, une barre en bas, extérieure. Recouvert, bien sûr, avec un petit tasseau d'or, c'est normal, la classe. Une barre en haut, une barre en bas, une barre en haut, une barre en bas. Donc là, ça me fait 6 barres. Mais il y avait une barre centrale qu'on faisait rentrer à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc à l'intérieur de la poutre, il y avait un trou dans lequel on faisait passer. Et on l'avançait, et hop, elle avance, elle tourne. Mais c'est du bois dur. Elle tourne, hop, et elle revient ici. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'en vérité, cette mida-là, ça correspond à la mida de Yaakov. Parce qu'il y a Abraham, Yitzhak, et Yaakov, c'est au milieu. Abraham, c'est Chesed, la bonté. Yitzhak, c'est la rigueur. Yaakov, d'accord, c'est quoi? C'est la jonction entre les deux. Très bien. Pourquoi c'était tellement important que ce truc-là, il sort d'ici et qu'il sort là-bas? C'est le message du Emet. Le Emet, il est vrai d'un bout à l'autre.
C'est le sel.
Ça veut dire que c'est pas qu'il est vrai là, après il va s'arrêter là, et là il fait un autre, et là on va changer, et là maintenant il y a un nouveau. Donc ça me fait une vérité là, une vérité là, une vérité là. Le Emet, c'est un seul tenant. Le Emet qui était là sera le Emet là. Minakatsé, elle a katsé d'un bout à l'autre. Ça, c'est l'image qu'on doit retenir.
Cette barre-là, elle représentait le Emet
comme... Cette barre-là, puisqu'elle représente la mida de Yaakov, et que Yaakov est Emet, donc Dieu a fait un miracle pour nous montrer, pour nous illustrer graphiquement ce miracle. Que Yaakov, ça représente le fait, le Emet. Et c'est quoi le Emet? C'est vrai d'un bout à l'autre. Ça veut dire que c'est vrai aujourd'hui, c'est vrai demain, c'est vrai dans 2000 ans, c'était vrai il y a 2000 ans. Ça bouge pas. Mina katsé, elle a katsé. Et même s'il y a un obstacle, le Emet contourne l'obstacle. Il n'a pas peur de ça. Parce que le Emet, il reste vrai même quand il y a un obstacle. C'est ça le message. Ce qu'il va expliquer ici. Voilà pourquoi c'est, Dieu a fait, parce que Dieu ne fait pas de miracle pour rien, vous comprenez. Il y a des menuisiers, je veux dire, d'Israël, on aurait pu faire des choses qui tiennent sans avoir cette technique-là. On n'a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin d'un miracle comme ça? En plus, Mishkan, on le montait, on le démontait, c'est-à-dire c'est un miracle qu'il va avoir au démontage à chaque fois. Dieu ne fait pas de miracle pour rien. Pourquoi c'était tellement important de faire un miracle comme ça? Parce qu'il fallait montrer graphiquement le fait que le Emet est quelque chose qui est immuable et que d'un bout à l'autre, il reste le même. Ça, le message est très fort. Donc, Anikra Briach Atichon, Amavriach Minakatsé Akatsé, qui est appelé la tige centrale, Amavriach Minakatsé Akatsé, Meru Mamaalot Madrigot Atsof Koldargin. Ce niveau-là va depuis le plus haut des niveaux jusqu'au dernier des niveaux. Ça veut dire que la vérité, c'est quelque chose qui restera toujours le même. Du plus haut niveau au plus bas niveau, la Torah reste la même. Il n'y a pas une Torah pour les Tzadikim, une Torah pour les Benonim, une Torah pour les Rishaim, une Torah pour le Ganedat, c'est la même Torah pour tout le monde. Vuchol ma'ala ou madriga, mavriar tort nekuda emtsaïd. Dans chaque niveau, dans chaque qualité, toujours, il reste la tige centrale qui restera la même. Shehi nekudat ou prinat midat emet shela. Qui est le émet, d'accord? Qui est le émet de la chose. Et là maintenant, on commence à comprendre un peu où ils vont en arriver. Il te dit, regardez, dans les tenants qu'il y avait là, dans les trois murs, chacun des murs avait deux poutres. Deux tiges. À part la tige centrale. Pourquoi Dieu n'a pas fait le miracle aussi que même les autres tiges tournaient? Pourquoi il a fait le miracle sur la tige centrale? Parce qu'il t'explique. Il te dit que tu dois savoir qu'en vérité, les autres tiges représentent les aléas de la vie. Que, une fois t'es comme ça, après une fois t'as un problème, donc tu prends une autre tige, et après tu repasses comme ça, et ça change. C'est quelque chose qui peut pas rester le même. D'accord? Mais il te dit, dans chaque chose, il y a une nekudat à émettre chez vous. Dans chaque élément de la vie, il faut rechercher quel est l'élément vrai qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'il y a plein d'éléments autour de ça, qui sont vrais aujourd'hui, enfin, qui sont des certitudes, mais qui sont pas la vérité de la chose, le émettre de la chose. Quel est mon émettre à moi? C'est la question que je dois me poser maintenant. Quel est mon émettre? Quel est le émettre de Mendiatouli? Quel est mon émettre? C'est ça la question que Benoni se pose. Quel est mon émet? Qu'est-ce que je veux faire en vérité? Et là, le Benoni, quand il lui pose la question, qu'est-ce que j'aimerais être? Qu'est-ce qu'il va te répondre? Il va dire, moi, j'aurais aimé être un sadique. Il va dire, ah, mais pourtant, t'as deux poutres, d'accord? T'as deux ici, t'as deux tiges. Et ces deux tiges, elles tombent pas. Ça veut dire, ces deux tiges, elles sont bloquées et il faut mettre des autres. Le Benoni dit, je sais que pas tout est parfait. Mais je peux te dire que j'ai une tige centrale. Ça, c'est mon émet à moi. Et mon émet à moi, au fond de moi, c'est que j'aurais aimé être comme ça tout le temps. Donc ça veut dire, c'est vrai que concrètement, je me comporte pas tout le temps comme ça, mais ça, c'est mon émettre. C'est comme ça que j'aurais aimé être. Et ben, on peut appeler ça du émettre. D'accord? Et là, il est parti encore plus loin de ce qu'on a expliqué avant. Avant, on a expliqué que puisque c'est reproductible à l'infini, ça appelle la vérité. Là, il te dit plus fort que ça. Il te dit, ne t'attarde pas sur ce que je fais. Regarde sur ce que tu veux être au fond de toi, dans ton émettre qu'il y a dans toi. Ça, quand on te pose la question, qu'est-ce que t'aurais voulu? Comment t'aurais voulu être? Qu'est-ce que tu vas répondre? J'aurais voulu être un rachat? Donc, il y a un certain émettre. On peut pas dire qu'il y a pas de émettre. Ce émet, c'est quoi la tige centrale? D'ailleurs, elle est cachée. Vous remarquez, d'ailleurs, nous faut remarquer les textes, que cette tige n'était pas extérieure comme les autres. Où elle était cette tige? Elle était au milieu, à l'intérieur. Elle était cachée, camouflée. De la même manière que la vérité d'un homme n'est pas toujours visible. Elle est camouflée. Mais quand tu grattes, tu vois que n'importe quelle personne, il y a une vérité. Et une vérité qui bougera jamais. Une vraie vérité, ça veut dire que tu as toujours voulu en vérité être quelqu'un de bien. Donc on peut dire que chez un juif, il y a du émet. Pas que je juge d'ailleurs.
Mais ça, c'est la recherche ou la connaissance de l'autre. C'est-à-dire que tu dois essayer d'aller.
Oui, mais même en moi, je peux dire qu'il y a du émet. Ouais, que je cherche la vérité. Je cherche à être quelqu'un de bien. Dans les mots. Umidat emet inahala blimetsarim. D'accord? La mida du emet, l'amida de la vérité, c'est une nahala blimetzarim, c'est un héritage qui n'a pas de, qui c'est un héritage qui n'a pas de limites. Parce que c'est écrit comme ça. C'est écrit que quand Akadosh Baruch Hu a donné la terre à Avraham Avinu, la terre d'Israël, il lui a donné l'Igvulotea. Il lui a donné la terre avec des frontières. Il a dit voilà, regarde, à droite, à gauche, etc., il lui a donné des frontières. Quand il a parlé à Yaakov Avinu, il avait déjà donné la terre à Avraham Avinu. Quand il a parlé à Yaakov Avinu, donc deux générations plus tard, il lui dit, regarde la terre que j'ai donnée à Avraham, et il lui dit, Ufaratsta, tu vas exploser. D'ailleurs, tu vas te répandre. Yama, Vakedma, Tsafona, Vanekba, dans toutes les directions. D'accord? Au sud, au nord, dans toutes les directions. Quel est l'ajout qu'il a donné à Yaakov par rapport à ce qu'il a, par rapport à Avraham? C'est qu'Avraham lui a donné quelque chose de quantifié. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Yaakov? Il lui donne pas de la quantité. Il lui dit, Ufaratsta, tu seras constamment en train de faire sauter des barrières. En train d'aller au-delà des barrières. Et donc, quand tu es au-delà de la barrière, ben, demain, ça devient la barrière de demain. Et quand j'aurai sauté cette barrière, ben, demain, ça sera ça, la barrière. Et tous les jours, ça avance. C'est quoi, Ufaratsta? Ufaratsta dit la Gemara dans Shabbat. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça. Pas comme Avraham, à qui j'ai donné une quantité de, une terre limitée. Il te dit en vérité, la bracha qu'on donne à Yaakov, c'est que Atida Eret Israël, c'est qu'en vérité, la terre d'Israël, c'est une terre qui va se répandre, et qu'elle s'arrêtera jamais. Pourquoi elle s'arrêtera jamais? Parce qu'encore une fois, la bracha de Yaakov, c'est quoi? C'est Ufaratsta. C'est sans limite. Pourquoi Yaakov Davka a eu cette bracha-là? Parce que Yaakov représente le Emet. Le Emet, c'est ce qui ne change pas, c'est ce qui n'a pas de limite, qui s'arrête jamais. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas peur, et c'est pour ça que Yaakov a été la personne à qui on a donné la bracha, qui pourra constamment se développer, et qu'il n'aura jamais de limite, jamais de fin. De la même manière que cette tige-là, tu l'as rentrée, il n'y a pas de fin. Ça n'arrête jamais. V'en la shiur le ma'ala adrum ha'ma'alot. C'est une mida qui n'a pas de quantité. Ça veut dire que tu peux aller au plus haut niveau que tu veux. Peut-être on va dire que, je sais pas moi, peut-être une personne aurait dit que la Torah est vraie pour les hommes, mais peut-être qu'au Gan Eden, quand on voit d'une autre manière, ils vont dire, attends, t'as vu cela, ils mettent des tefillines avec des pots de cuir, ça c'est une vérité, ça? Peut-être qu'on aurait pu dire qu'en haut, ils disent, bon, c'est pas la vérité. Peut-être, on aurait pu dire comme ça. Il te dit non. Il te dit, le Emet, on peut pas dire ça. C'est quoi le Emet? Le Emet, c'est quelque chose que tu peux le prendre dans n'importe quel niveau, abstrait, pas abstrait, raffiné, grossier, etc. Il restera toujours dit, ça c'est le Emet, ça c'est la vérité. Mais ça, c'est une émouna que je dois avoir. Personne pourra me convaincre. C'est-à-dire que même au Gan Eden, quand on nous voit mettre les tefillines en bas, on dit ils sont dans le vrai. Pourtant, les animaux, c'est le matériel, etc., ils sont dans le vrai. Parce que mettre les tefillines, c'est du Emet. C'est une mitzvah, Dieu m'a demandé, donc c'est du Emet. Le Emet ne change pas, peu importe le niveau dans lequel on se trouve, peu importe le moment dans lequel on se trouve. Le Emet est quelque chose qui ne dépend pas du temps et de l'espace. Le temps et l'espace ne peuvent pas changer une vérité. On le fait avec le matériel, et le faire avec le matériel reste vrai. C'est-à-dire, c'est pas quand on arrive en haut, ils vont dire, ouais, bon, en vérité, on vous a dit sur le matériel, mais en vérité, bon, ça vaut rien, quoi. Non, non, pas du tout. Quand on arrive en haut, ils vont dire, c'était du vrai ce que tu as fait. Et nous, on te confirme que c'était du vrai, parce qu'une Torah ne change pas. La vérité ne change pas.
Yaakov Avinu.
Oui.
Il n'y a pas encore eu la Torah, ce n'est pas
bon. Non.
C'était quoi sa vérité,
hein? Sa vérité, c'est sa vérité intérieure. Le fait qu'il était capable de montrer que c'est une vérité qui montre qu'il n'a pas de limite. Ça veut dire que c'est une mida que Dieu lui a donnée, qu'Abraham était quantifié, c'était limité. Yitzhak, c'était limité. Et Dieu a donné cette qualité à Yaakov, que Yaakov est en expansion constante et qu'il ne s'arrête jamais.
Comment ça se matérialise chez lui?
Bah, ça veut dire qu'il se comment on appelle ça? Il était en expansion constante.
C'est transcendé.
Ça veut dire qu'on a bien vu.
Il y a 4000 ans.
Oui.
Il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. C'est un homme comme toi et moi. Qu'est-ce qui le différencie?
Eh ben, il diffuse le monothéisme, d'accord? Les autres, son père et son grand-père ont eu deux enfants et il y a eu 50% de ratés, d'accord? Lui, il a eu 12 enfants, il a eu 100% de réussite. Comment c'est possible? Statistiquement, c'est impossible. Et en plus, il était à Haran, en Mésopotamie, dans le royaume de Avodah Zara, etc. Et Thomas, parce que Yaakov, c'est au Farad, ça. Il n'y a pas de limite. Il aurait pu avoir 20 enfants, ils auraient été les mêmes. C'est une bracha spéciale que Dieu l'a donné. Oui, c'est le Emet. Emet. La vérité. Quelque chose qui ne bouge pas. C'est ce qu'il veut dire ici. Le Emet, c'est quelque chose qui ne bouge pas. V'chol ma'alot ou madrigot shel mata, em ki aïl gabe ma'alot ou madrigot shel ma'alam en. C'est ce qu'il te dit ici. Il te dit que ça ne change pas. Ça veut dire que même si tu as un niveau très très haut, un niveau très très bas, et que le niveau est tellement haut que c'est incomparable, qu'est-ce que tu vas comparer au Gan Eden par rapport au monde ici bas? Le Emet ne change pas. Ce qui est vrai ici sera vrai en haut, ce qui est vrai en haut sera vrai en bas. Ça ne bouge pas. Ça, c'est la Torah et les Mitzvot. Donc, en vérité, si on devait donner maintenant la réponse, on devait maintenant définir pour nous, en tant que Am Israël, qu'est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce qu'on va répondre? Dieu, la Torah, les Mitzvot. Tout le reste, à part ça, c'est pas la vérité.
L'homme.
D'accord? Non, c'est pas une vérité, l'homme. Les gens vont dire par exemple la vérité, c'est le mariage et les enfants, non? Mais c'est pas quelque chose.
Tu dis la barre qui vient qui soude l'ensemble des trois murs. Le fait d'avoir mis cette petite barre, elle a...
Mais c'est pas quelque chose. C'est pas quelque chose qui.
S'il n'y avait pas cette barre, il y aurait peut-être pas cette unité.
C'est pas quelque chose qui se maintient à vie. L'homme n'est pas quelque chose qui se maintient à vie. Il meurt.
Il va y revenir.
Il y a d'autres qui reviennent. Oh, si vous voulez, oui.
Selon la volonté de Dieu.
Bien sûr.
Il aurait pu faire l'éternel.
C'est pas le même.
Il aurait pu faire l'éternel.
C'est pas le même.
On a changé parce qu'on a fauté.
Là, on a la même mitzvah qui ne bouge pas. La même. Qui ne change pas.
Mais la même mitzvah, tu sais, elle change.
D'accord. Non, elle ne change pas.
Par rapport aux hommes.
Ah non, la mitzvah ne change pas.
Qu'on change de
pas du tout. La Torah t'a dit, tu n'allumeras plus, tu n'auras pas le feu le Shabbat. Alors à l'époque, on connaissait le feu.
On a dévié, on a une solution pour pouvoir arranger les choses.
Non, pas du tout. On n'a jamais changé. La Torah t'a dit, tu n'allumeras pas le feu pendant Shabbat.
Pendant Shabbat.
D'accord. Donc maintenant qu'on sait que l'électricité c'est du feu, donc j'allume pas aussi l'électricité. Est-ce que ça veut dire que j'ai modifié la Torah, que la Torah parle d'électricité? Non, j'ai pas modifié la Torah. Comme j'ai une vérité qui me dit que j'ai pas le droit d'allumer le feu Shabbat, d'accord. Donc cette vérité, je l'ai appliquée. C'est une vérité que j'ai appliquée et que j'ai ramenée dans ma vie.
Mais
j'ai
pas.
La vérité n'a pas été adaptée. On l'a fait, on l'a ramenée à notre vie, c'est tout. Parce que la Torah ne change pas.
On a trouvé le moyen de faire avec.
Comme pour porter aussi. Porter était interdit. Il y en a un qui est mort à cause de ça.
Oui.
Et on autorise.
Seulement, néanmoins, je voulais rajouter encore ce point-là, d'accord.
Le héros.
Oui, parce que c'était pas interdit.
C'est marqué dans la Torah.
C'est marqué dans la Torah, ça.
C'est marqué dans la Torah.
Oui, d'accord. Mais
la Torah, tu dis, tu n'as pas le transport.
Qui a porté du bois, comment il s'appelle
Il l'a porté en dehors du camp. En dehors du camp.
Mais il est parti en sacrifice.
Oui, mais il est parti en dehors du camp. Donc, je reprends. Donc, ça veut dire comme ça. Il te dit maintenant, je reprends maintenant. Donc, ça veut dire que finalement, qu'est-ce qu'on dit au Bénani? Qu'est-ce qu'on lui dit au Bénani? On lui dit deux choses. D'abord, on lui dit, puisque c'est récurrent et qu'il y a un cycle que tu peux renouveler quand tu veux, c'est une vérité. Premièrement. Deuxièmement, on dit à M. Benoni, en vérité, nous, ce qu'on doit chercher, c'est ta vérité intérieure. Et ta vérité intérieure, elle, est immuable. Elle change pas. Seulement, on va quand même calmer les ardeurs du Benoni. On va lui dire, bon, c'est vrai que tu as une vérité intérieure dans laquelle tu veux bien faire, mais tu peux quand même pas te comparer au tzaddik. Parce que le tzaddik, lui, cette vérité intérieure, elle est constamment perceptible. Ce qui n'est pas forcément le cas chez toi. C'est-à-dire que moi, chez moi, quand je vais arriver à Yom Kippour l'année Ilah, là, je vais dire, ah, Bémet, au fond de moi, j'aimerais être quelqu'un de bien. Quand je vais arriver au Slirot, ah, Bémet, j'aimerais être quelqu'un de bien. Est-ce que je le pense toute la journée? Je sais pas. Alors que le tzaddik, lui, il est constamment comme ça. C'est pour ça, ici, qu'il ramène un peu le Benoni à la réalité. Pour lui dire, vérité intérieure, oui, d'accord? Mais il te dit, Kayadou, Alayot Echen, on finit avec ça. Comme c'est connu, pour ceux qui connaissent la Kabbalah, chez Prina Drosh ou Mochit chez le Madrigot Tartanot, M. le Mata Prina Tagevaim, Veraglé Madrigot Alionot Mehen, d'accord? Kumahamar, Rabotelu, Zichodan, Viracha, Raglé Achayot, Kineget Kulam. Alors, je rentrerai pas trop dans les détails de ce qu'il dit ici, parce que c'est un crochet, c'est vraiment une parenthèse de Kabbalah, mais j'expliquais quand même, un petit peu. Il dit que le haut niveau des niveaux d'en dessous représente le pied du niveau d'en bas. Du niveau d'en haut. Ça veut dire que, comme ça. On va expliquer. Ça veut dire que, voilà, si je prends par exemple, on parle d'un enchaînement, d'accord? On prend un enchaînement. Donc, le haut de ce verre est le bas du verre d'au-dessus. Et le haut de ce verre va être le bas du verre d'au-dessus, etc., etc. Donc c'est la même chose. On te dit, toi, Benoni, tu es là. Donc tu dis, ah, j'ai capté la vérité. On te dit, doucement. Parce que toi, ce que tu vois là ici, par rapport à celui qui va arriver en haut, t'es en bas. Mais le tzaddik aussi, il sait attention, il y a des grands tzaddikis. Mais par rapport à ce que moi je me vois, moi je suis en bas. Donc chacun comme ça, il va relativiser pour se dire que, en vérité, le Emet n'a pas de limite, n'a pas de fin. Parce que la Torah, c'est infini. Et ça, le tzaddik, plus on avance dans la Torah, et plus on comprend que la Torah, par définition, est infinie. Parce que le niveau que tu croyais avoir atteint, et ben, par la suite, tu comprends que c'était que les pieds du niveau que tu dois atteindre, de la tête que tu dois atteindre. Et ça s'arrête jamais. D'accord? Voilà pourquoi on dit ça au bénédicte du Emet. D'accord? Donc, pour répondre, le Bénédicte n'est pas un mytho. Le Bénédicte n'est pas un menteur. Il fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. D'accord? C'est cyclique. Ça veut dire qu'il peut renouveler le cycle comme il veut. Et en plus, c'est sa vérité profonde, sa vérité intérieure. Donc, continuons à vouloir être profondément en nous, être des gens bien, être des gens vrais. Et la vérité, comme on a expliqué, est une entité qui ne change jamais, d'accord? Qui est au fond de nous, mais qui peut aller d'un bout à l'autre en restant la même sans bouger. Voilà. On va se tromper de ce vrai. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on peut encore faire quoi, je me rejoins. La semaine prochaine, on va commencer le chapitre 14, Bezrat Hashem, dans lequel on va expliquer comment le Benoni est quelque chose d'accessible à tout le monde. C'est déjà une autre dimanche.
Voilà. Ça laisse. Merci. Bon.